Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et particulièrement sur les plateformes digitales de Cogeco. Et on est aussi à TVA Sport maintenant parce qu'on a une version télévisuelle. D'ailleurs, Hugues est allé faire un tour sur le show à Jean-Charles hier. Jean-Charles qu'on connaît tous assez bien parce que moi, j'ai travaillé avec quand même assez longtemps. Et dans cette chronique-là, mon cher Hugues, Jean-Charles a scoopé notre propre nouvelle, mais on est bien content que ce soit annoncé par lui, parce que on a, j'oserais dire, une grosse et grande nouvelle à annoncer. Je vais te laisser le dire, mais on ajoute une membre à l'équipe, puis on en est particulièrement fiers.
L'ancienne quatrième mondiale chez les juniors, la Québécoise Charlotte Robillard-Miette. Charlotte, 25 ans, qui a malheureusement dû arrêter sa carrière professionnelle pour des raisons de blessure, qui termine son bac en communication et qui regarde du côté des médias pour une carrière. Et ma foi, après l'essai qu'on a fait avec elle, je suis convaincu qu'elle aura une très belle carrière dans les médias sportifs, éventuellement comme commentatrice, analyste tennis, parce qu'elle est très, très solide, très articulée, très intéressante dans ses commentaires sur le tennis. Elle nous amène une perspective non seulement féminine, mais de l'intérieur sur comment les joueurs et joueuses évoluent et se sentent sur le circuit. Donc, on est vraiment content d'avoir Charlotte avec nous à partir de maintenant.
Elle a joué la game, elle a joué contre les filles qui sont là en ce moment. Elle connaît tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Tu as dit, là, c'est une quatrième mondiale. Là. Elle a joué, vous allez l'entendre plus tard dans l'entrevue, là, parce que vous allez l'entendre plus tard dans l'émission. On a une demi-heure d'entrevue qu'on fait avec Charlotte. C'était comme une première entrevue avec elle, mais elle se joindra à nous à titre de panéliste plus tôt que plus tard. On va voir qu'est-ce que ça va donner en termes de régularité, mais ça risque d'être très, 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 très souvent avec Charlotte. Enfin, c'est son intention. Alors, on est bien content de ça. C'est une fille qui a quand même battu Jessica Pegula chez les juniors et c'est une fille qui est top 5 mondiale aujourd'hui. Vous allez l'entendre, elle est particulièrement solide. Alors, Nico, moi, je t'ai inquiet parce que ça se peut qu'on choisisse entre les deux.
Je vais me battre férocement, les gars.
Nico, ta place est assurée avec nous. T'es le Sidney Crosby dans notre équipe. Tant que tu vas vouloir continuer de signer avec nous, tu resteras un membre de Sur la ligne.
Et les gars, un petit point sur Charlotte aussi. Elle a passé sa certification coach 2 nationale avec Tennis Canada. Elle sera coach 3 très bientôt aussi. Il n'y a pas tant de coach à ce niveau-là au Canada. Donc aussi, elle est encore très présente dans le développement des joueurs. Donc, elle redonne à son sport avec le coaching. Là, ça amène une autre corde à son arc.
Ouais, j'imagine qu'elle est capable d'enseigner comment faire un bon service. Ouais. On en parlait à bâton rompu dans notre conversation de groupe, la coupe sur la ligne, là, il va falloir qu'on fasse quelques amendements, là, parce que Charlotte va
tout... C'est plié. Il va falloir, ouais, système d'handicap, les gars, parce qu'il va falloir qu'elle nous donne quelques jeux d'avance.
Ou qu'elle nous donne un set et trois quarts d'avance, puis qu'on est chanceux, ça a fait quelques doubles fautes. Voilà. Mais elle dit qu'elle joue encore, elle frappe encore, d'ailleurs, je l'ai vu hier, après, parce que, bon, au moment où on enregistre ce bloc-là, l'entrevue avec Charlotte a été réalisée hier, mais je l'ai vu après l'entrevue demander à Hugues, tu sais, si jamais il y a des terrains de libre, faites-moi signe, je serais prête à en louer des terrains. Alors, elle veut encore frapper la bonne Charlotte. Mm. Et puis, ben, on est bien content. Moi, je la connais depuis qu'elle a à peu près 14 ans. Je la suivais très tôt chez les juniors et puis j'ai toujours eu une bonne relation avec Charlotte. Puis, je suis bien content qu'on puisse l'acheter à l'équipe. Je pense que c'est un ajout de taille. Et puis, ben, c'est un win-win pour tout le monde, j'ai l'impression, parce que ouais, elle aussi, ça sera une première entrée dans le domaine des médias. Puis, ça nous fera plaisir de l'encadrer. Puis, de jaser tennis semaine après semaine avec elle. Voilà. Et vous pourrez l'entendre un peu plus tard dans l'épisode. Maintenant, messieurs, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. On suivait notamment ce qui se passait du côté de Rotterdam puisqu'il y avait plusieurs Canadiens qui étaient là. Il y a des Canadiens qui ont bien fait, peut-être pas ceux que vous pensez. On va commencer avec Félix Auger-Aliassime. On regardait son tableau, on se disait, bon, une fois de plus, c'est un tableau compliqué pour Félix Auger-Aliassime. Là, je vois la face de Hugues qui dit Alex. Mais en même temps, on se disait, bon, s'il peut passer Cressy, c'est déjà un bon défi au premier tour. Et Roublev au deuxième tour, ben il a quand même fait une très bonne performance contre Roublev. Là, soyons honnêtes, dans les circonstances, c'est une défaite honorable, je vais le dire comme ça.
Oui. Moi, j'ai aimé, Alex, comment il a géré son match contre Maxime Cressy au premier tour. Très, très gros serveur. Pratiquement impossible de le breaker. Donc, il réussit à aller chercher ce match-là, 7-6, 7-6. Ça, c'est de la gestion de match là, de très, très haut niveau. Donc, bravo à Félix d'avoir passé ce tour-là. Roublev, bon, il tombe contre un joueur établi du top 10. Un joueur en forme quand même en ce moment. Il a quand même eu 4 balles de match à 0-40, 4-5 sur le service de Roublev au troisième set. Malheureusement, il l'a échappé un petit peu à ce moment-là. Mais bon, Roublev, c'est pas une défaite déshonorante, loin de là. C'est juste dommage d'échapper des balles de match comme ça. Mais bon, c'est quand même une défaite là à son deuxième match à Rotterdam. Tournoi, rappelons-le, qu'il avait gagné en 2022.
C'est un top 5 quand même, Roublev, qui a pas fait moins bien qu'un quart de finale cette année. Il a déjà un titre. Alors, je pense que dans la circonstance, Nico, en tout cas, je dirais pas que j'ai été sévère, mais je pense que sur le podcast, à quelques endroits, on a quand même été sévère avec Félix. Je pense que dans les circonstances, c'est quand même, ça reste quand même positif ce qui s'est passé à Rotterdam pour Félix.
Les gars, il a joué 2 matchs et il a complété 60 jeux. Imaginez la quantité de jeu, d'intensité, de stratégie qu'il a dû mettre en place pour ultimement presque se rendre au troisième tour. Puis c'est ça qui est un peu dommage dans la mesure où, comme vous en parliez, il y a eu balle de match, il a très bien géré, surtout le deuxième set. Mais je pense que le positif, parce que le présentement, je pense que dans le cas de Auger-Aliassime, on y va étape par étape, on prend ce qu'il y a de progrès pour ultimement rebâtir cette confiance-là. Mais il est capable de battre des joueurs du top 10. Il l'a montré. Contre Roublev, des balles de match, c'est pas anodin. C'est pas banal. Ce sont des balles déterminantes. Évidemment que bon, il y a peut-être un petit, des ajustements à faire pour remporter ces matchs-là, mais il s'y est presque rendu. Et pour moi, même si c'est une défaite peut-être précoce au deuxième tour, il y a quand même beaucoup de positifs à tirer de cette semaine à Rotterdam qui est assurément décevante pour le champion défendant. Mais qui quand même, lorsqu'on se rend compte qu'il a rivalisé avec Roublev, qui n'est pas le dernier venu, il y a beaucoup de positifs, je pense, à tirer quand même, malgré les résultats peut-être un peu fatal.
Je suis d'accord, Nico. Juste un petit peu renchérir sur ça. Effectivement, je le répète, sa gestion du match au premier tour, c'était pas si simple que ça. Puis c'est un match qu'il aurait peut-être perdu l'an passé, ce match-là. Donc, il a réussi à le gagner. Et le match contre Roublev, vous le dites, un top 5, il était à un coup de raquette de gagner ce match-là. Donc, je pense que, et je le souhaite, qu'il va prendre de la confiance sur cette performance-là quand même à Rotterdam.
C'est un début de saison correct pour Félix Auger-Aliassime dans les standards qu'on attend de lui là quand même. Et il a un troisième tour en Australie, ce qui est quand même possiblement une demi-finale à Montpellier. Et bon, quand on regarde à Montpellier, il a perdu contre l'éventuel champion. À Melbourne, ben il avait perdu contre Medvedev. T'sais, il n'y a pas eu trop de défaites très catastrophique et où on se grattait la tête dans le cas de Félix Auger-Aliassime. Alors, il a quand même gagné les matchs qu'il devait gagner et ça, ben c'est quand même déjà pas si mal.
Par contre, il y a quand même une progression. Là. Je notais que dans son match contre Roublev, le nombre de pourcentage de jeux gagnés au premier service, c'était 80%. Et dans les semaines précédentes, on était autour de 60. Donc, c'est ce qu'on se disait, les gars. Lorsque Félix, son premier, ne fonctionne pas, tout dérape parce qu'il a de la difficulté sur son deuxième. Mais lorsque la première passe, ça va bien. Et là, s'il peut reconstruire sur cette arme fatale, vous le savez, quand Félix sert bien, il a assurément l'un des 5 meilleurs services du circuit. Il est autour de 80% contre un Roublev qui sait comment retourner des premiers services. Pour moi, simplement, ce détail-là, il est primordial.
Intéressant, Nico, d'amener cette stat-là, parce que t'as effectivement raison. On le dit souvent, quand le service de Félix va, tout va dans son cas, il a un des bons services sur le circuit, et quand sa première balle rentre, ben, il se donne significativement des meilleures chances de l'emporter. Dans le cas de Denis Shapovalov, je me souviens plus si la semaine passée, il avait déjà perdu au moment où on a fait l'épisode, mais il s'était quand même qualifié pour Rotterdam avant de perdre en 2-7 très, très, très serré au bris d'égalité contre Gaël Monfils. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire là-dessus, messieurs, ou c'était pas mal ce à quoi on s'attendait dans le cas de Shapovalov? Nico?
On se répète à chaque semaine, on espère qu'il revient. Gagner contre Hugo Gaston, qui est pas, tu sais, je veux dire, c'est une victoire. Je pense que dans ce cas-ci, il faut noter les victoires. S'incline contre un Monfils, puis on l'a vu, c'est un match étiré, c'est un match serré, mais Chapeau a de la difficulté à gagner des matchs de tennis. Puis ultimement, c'est comme ça qu'il va parvenir à remonter dans le classement. C'est en gagnant des matchs de tennis. Ce qu'il est incapable de faire présentement.
Hugues? Ouais, c'est dans le temps qu'on verra où il se situe vraiment, mais quand même, cette qualification-là, elle est satisfaisante pour lui. Mon fils, bon, joueur quand même en fin de carrière, mais qui joue très bien en intérieur aussi. Il y a eu une victoire, on se souvient, à l'automne, c'était à Stockholm, si je ne me trompe pas. Bon match de Denis, mais bon, il faut voir, on est en mode attente là, pour voir ce qu'il pourrait aligner comme victoire.
Intéressant. Par contre, lui qui nous a surpris, mon cher Hugues, c'est Milos Raonic.
Okay, oui.
Et lui, ben, écoute, ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il ne joue pas beaucoup. Mais quand il joue, il rivalise.
Il sort, écoute, donc, quart de finale à Rotterdam, ATP 500. Je vais commencer par son dernier match. Il jouait contre Yannick Sinner, le joueur en forme du moment, nouveau troisième mondial cette semaine, on va en reparler. Champion de l'Open d'Australie, évidemment. Miloš faisait jeu égal avec Sinner. 7-6, 1-1, retrait sur blessure encore une fois. À son grand désespoir, on a vu la tête qu'il faisait en sortant du terrain en clopinant sur une jambe. Là. Il devait vraiment être déçu, mais quel tournoi. Il bat Alexander Bublik, 6-4, 6-4. Un des joueurs quand même qui joue bien en ce moment.
Il venait de gagner un titre contre Félix.
Exactement, qui a déjà battu Félix. Donc, écoute, quart de finale pour un gars qui a pas joué beaucoup depuis l'été dernier. On l'a vu assis sur le banc à la Coupe Davis à Montréal il y a 2 semaines. On se dit, bon, il est-tu en état de jouer? Il est-tu blessé? Et il fait un quart de finale. Il fait jeu égal avec Sinner. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Si le corps tient le coup, Miloš Raonic a encore du gros tennis à nous donner.
Nico, commentaire?
Les gars, la donnée que je vais vous donner, elle est peut-être un peu nichée, voire même tirée par les cheveux. Mais depuis le début de la saison, Raonic a perdu aucun match.
Wow, exact.
Si ce n'est de l'abandon.
Ouais.
Tous les matchs qu'il a joués, il les a gagnés, sauf lorsqu'il a abandonné. Donc, jamais ne s'est fait battre de manière franche. Et ça, pour moi, même si les blessures qui reviennent sont inquiétantes, pour moi, le fait qu'il ne se soit jamais fait battre de manière, disons, officielle avec le nombre de points requis, c'est aussi une très bonne nouvelle, les gars. 7-4 au bris d'égalité contre un Sinner, qui est le joueur de l'heure, qui est le meilleur joueur au monde présentement,
ouais,
contre un Raonic qui revient de peine et de misère à 33 ans.
Il a à peine joué dans les deux dans
exactement. Alors que Sinner, il est rodé, il a le vent dans les voiles, il a le momentum. Raonic, lui, arrive comme un cheveu sur la soupe et brasse un peu la cage contre Sinner. Mais ça me rassure quand même de voir qu'il est quand même compétitif et qu'il est capable de rivaliser contre les meilleurs au monde, comme c'était le cas en 2015-2016.
Et Bublik de dire à son coach ou à son box durant le match, il dit bon, j'aurais peut-être tout arrêté le match parce que quand le service de Miloš fonctionne, tu touches pas à la balle, c'est incroyable.
C'est un gros compresseur.
Ah, c'est incroyable. Fait que Bublik était écœuré comme beaucoup de joueurs là, l'ont été contre Miloš. C'est comme ok, je fais quoi là, je m'en vais, j'arrête, ça sert absolument à rien. C'était très beau à voir. C'était du Miloš Raonic là, de son meilleur niveau qu'on a vu cette semaine ou la semaine dernière à Rotterdam.
Depuis son retour là aux Pays-Bas, si je me souviens bien, l'année passée sur gazon, où il avait battu Kecmanovic. Il nous avait tous surpris parce que, d'un, il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il était à la retraite, revient, bon, un gars bien établi sur le circuit. Il a joué environ une quinzaine de matchs. Et quand je dis il rivalise, c'est avec parmi des meilleurs joueurs au monde. Il a fait tout un match, un 4-7 à Tommy Paul à Wimbledon l'année passée. À Toronto, pas besoin de vous rappeler ce qu'il a fait. Il avait battu Francis Tiafoe, qui est un des meilleurs joueurs au monde, avant de perdre contre Mackenzie McDonald au troisième tour. Et puis, bon, après ça, il a joué quelques autres matchs qui ne sont pas aussi bien passés. Mais au début de la saison cette année, il perd contre Alex de Minaur au premier tour, mais lui prend un set en Australie à Alex de Minaur. Alors, et là, ben, il a battu.
Finaliste à Rotterdam.
Finaliste à Rotterdam qui venait de battre Félix la semaine d'avant dans un tournoi en demi-finale. Écoutez, c'est quand même impressionnant ce que Milos réussit à faire avec aussi peu de rythme.
Absolument. Absolument. Moi, j'espère qu'il va réussir à maîtriser encore cette blessure-là qui l'embête, parce qu'on en a parlé plus tôt aussi, il est très fit, il a perdu du poids, il est match ready, clairement, là, Miloš. Physiquement, il est vraiment très bien. Fait que souhaitons qu'il puisse, comme une Rebecca Marino, avoir une dernière phase de carrière à son plein potentiel. Et son plein potentiel, ma foi, c'est très impressionnant. Il peut aller gagner des tournois encore, là, si le corps tient le coup.
Ouais, et même, je te dirais, tu sais, j'ai rien enlevé à Rebecca Marino, on l'adore, là, mais ses résultats sont plus significatifs de façon générale que ceux de Rebecca Marino, même s'il a joué beaucoup moins de tournois.
À notre niveau, on s'entend.
À Rotterdam, bon, on en parlait tout à l'heure, Milos Raonic a perdu contre Yannick Sinner, ça se passait en quart de finale avant de se retirer, mais Sinner, lui, est allé finalement jusqu'au bout. Il est invaincu depuis le début de la saison. Nico, t'as dit tantôt, Sinner est le meilleur joueur au monde. Hugues, es-tu d'accord avec ça présentement?
Oui. Je pense que c'est un numéro un en puissance qui se développe sous nos yeux. Il se rapproche à 1000 points de Carlos Alcaraz, qui, ma foi, se cherche en ce moment. Aucune finale depuis Cincinnati au mois d'août passé. Alcaraz, c'est compliqué en ce moment. Il est en Amérique du Sud en ce moment. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire sur terre battue. Mais Sinner, quelle maturité, quel jeu d'attaque extrêmement complet, victoire solide contre de Minaur aussi. Il semble intouchable en ce moment, Yannick Sinner. Rappelons-le, champion de la Coupe Davis en fin d'année, champion de l'Open d'Australie, maintenant champion de l'ATP 500 à Rotterdam. C'est son premier tournoi depuis l'Open d'Australie, tu l'as dit. C'est 10 matchs de suite qu'il gagne depuis le début de la saison. Et rappelons encore ses 2 victoires de suite contre Djokovic, 2 semaines d'affilée en fin d'année. C'est le joueur à battre en ce moment sous le circuit.
Et je vais même aller plus loin que toi, Hugues. C'est le joueur à battre depuis la fin du US Open 2023. Il a tellement été bon en fin de saison l'année passée, Yannick Sinner. Elle remporte le titre à Beijing contre Medvedev. C'est un ATP 500 à ce moment-là. Remporte le titre contre Medvedev à Vienne en octobre, un peu plus tard également. Perd contre Djokovic en finale des finales de l'ATP, mais il l'avait battu plus tôt dans le tournoi. Il avait battu une fois de plus Medvedev dans ce tournoi-là. Tu l'as dit, a remporté la Coupe Davis par la suite. Oui, il a à nouveau battu Novak Djokovic. Et là, depuis le début de la saison, il est invaincu. Depuis la fin du US Open, je pense que c'est incontestable, à mon avis. Yannick Sinner est le meilleur joueur au monde. Quand on regarde ces résultats-là, Nico, tu veux-tu ajouter quelque chose sur Yannick Sinner depuis le mois de septembre ou en fait depuis le début de la saison actuelle?
Ce que je trouve remarquable, c'est qu'il a été capable de s'améliorer dans des zones extrêmement minces. Puis je m'explique. Vous le savez, plus il y a de failles dans le jeu d'un joueur, plus il y a de place à amélioration. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais Yannick Sinner, il était déjà très bon, très doué. Il était prometteur. Ici, Hugo Podcast le soulignait à plusieurs occasions. Il sera sans doute le numéro un mondial. Et lorsqu'on l'a vu à Toronto l'an passé, les gars, je vous avais parlé, puis je l'avais écrit dans les pages de la presse, il y a très peu de failles dans son jeu. Pour moi, il y avait les montées au filet et les deuxièmes services. Ouais. Et je regardais le nombre de fois que les montées au filet contre de Minaur à Toronto en finale l'an passé, 4. Il y a quelques jours à Rotterdam, 18. Et ça fait toute la différence. Combien de fois on a dit, le jeu de Félix, il est presque parfait, mais devrait monter davantage au filet. Sinner l'a compris. Le tennis moderne, c'est un tennis offensif, un tennis d'attaque. Sinner, il l'a compris. Il s'est amélioré. Il était déjà extrêmement doué, mais ses faiblesses sont devenues des munitions. Et simplement pour cette adaptation qu'on reproche parfois à certains joueurs de ne pas faire ou du moins d'éviter, sans se réinventer complètement puis se dénaturer, Medvedev, il a été capable de trouver les failles et de les améliorer.
Nico, t'es vraiment le maître de la clip, honnêtement. Là, ses faiblesses sont devenues des munitions.
C'est de la poésie. C'est pas plus compliqué que ça.
C'est de la poésie.
Je suis sincèrement jaloux que tu puisses trouver ça sur le spot. Parce que je te connais assez pour savoir que tu ne l'as pas écrit d'avance. Là, sur le spot. Okay. Toujours bien impressionné de ça. Une autre qui nous impressionne, c'est Leila Annie Fernandez. Elle a quand même particulièrement bien fait à Doha un quart de finale où elle a battu trois joueuses, ma foi, particulièrement compliquées. On regardait son tableau et on se disait, ouf, ça va être compliqué. Samsonova au premier tour, Badoza au deuxième tour, Zhang au troisième tour. Finalement, s'incline contre Rybakina en quart de finale. Mais Hugues, une expression que j'aime utiliser, c'est pas gênant comme tournoi, là.
Quelle performance, quelle semaine de Leila à Doha. Tu l'as dit, Samsonova, 12e favorite, Badoza, bon, ancienne top 10, elle est moins en forme qu'elle était, mais quand même, il fallait le faire. Après, donc, c'est un 3-7 après une défaite, après un bagel au premier set, 6-0, assez bien replacé. Et Qinwen Zheng, finaliste de l'Open d'Australie, grosse cogneuse. Et elle s'incline seulement contre Rybakina, qui est une des joueuses en forme du circuit en ce moment, qui a déjà deux titres cette année, 4e mondial. Leila peut être vraiment fière de sa semaine à Doha. Progression de 5 places au classement. Elle est maintenant 33e. Les choses augurent bien pour Leila Fernandez en ce moment.
Non, c'est quand même particulièrement positif. Nico, commentaire sur cette belle performance dans un tableau vraiment, vraiment complexe pour Leila.
Tout à fait. Et les gars, je ne sais pas si vous avez regardé le match en détail, mais j'ai presque envie de dire que cette défaite contre Rybakina, c'est un accident de parcours parce qu'elle était méconnaissable. Il n'y a simplement rien qui fonctionnait. Ce qui fonctionne habituellement ne fonctionnait pas. Puis je me disais, si elle avait joué contre Rybakina comme elle avait joué contre Badoza, comme elle avait joué contre Zheng, pour moi, ce match-là, il était dans le cas de Leila. C'est peut-être, bon, on le saura jamais ultimement, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle n'était pas elle-même, ça ne fonctionnait pas, mais dans de bonnes conditions, je suis convaincu que ce match-là aurait été extrêmement serré.
Et là, par la suite, enchaîné avec un tournoi à Dubaï, là, et elle jouait son match au moment de l'enregistrement aujourd'hui. Elle a perdu contre Paolini au deuxième tour. Commentaire, Hugues, sur cette performance de Leila.
Ouais, ce qui est plate, c'est que Dubaï, c'est un WTA 1000. Là. C'est pas n'importe quel tournoi. C'est le premier 1000 pour du côté féminin depuis le début de l'année. Toutes les joueuses y sont. Tout le monde reprend du collier. Donc, Swiatek, évidemment, Sabalenka, qui a perdu aussi très tôt. Goff, Rybakina. Bon, bref, toutes les filles sont là. Victoire solide au premier tour contre l'Américaine Pera. Je me disais, Paolini, qui est 28e mondial, je crois, c'était à la portée de Leila, qui est 33e. Malheureusement, défaite assez rapide en 2-7. J'ai pas vu le match cette nuit, donc je peux pas trop commenter, mais je m'attendais à une meilleure semaine après Doha. Est-ce qu'elle était dans une moins bonne journée, comme c'est arrivé contre Rybakina, comme le disait Nico la semaine passée? Je le sais pas, mais je m'explique un peu mal cette montagne russe, là. Après une semaine vraiment, vraiment solide à Doha, elle perd contre Paolini en deux petits sets, c'est un peu surprenant quand même. Je m'attendais à un meilleur parcours à Dubaï de Leila.
Peut-être un peu de fatigue, Nico, à cause du tournoi
qui a été complexe. C'est ce que j'ai envie de dire. Peut-être un peu essoufflé. Là. Vous le savez, les gars, on parle à plusieurs joueurs et joueurs sur le circuit. Quand on connaît des phases comme ça, on est en transe. C'est grisant là, sur le moral, sur l'émotion, sur le corps. Là, revient d'une semaine où je pense qu'elle ne prévoyait pas rester à Doha aussi longtemps et rester presque jusqu'à la toute fin. Contre des joueurs doués dans des matchs émotifs, dans des matchs serrés, là, arrive à Dubaï dans un gros tournoi, la pression, elle est mortelle, elle a un momentum, doit livrer, ça n'arrive pas. Je pense qu'on peut mettre ça un peu sur le dos de la fatigue là, pour Leila cette semaine.
Pas impossible dans le cas de Leila Annie Fernandez. Je suis certaine, elle devrait, il faudra voir comment les autres résultats vont découler d'ici la fin de la semaine, mais elle devrait quand même progresser au classement. Et présentement 33e, mais son live ranking, pour utiliser l'expression anglophone, son classement en direct nous amène à la 31e place mondiale.
Alors, ça va être top 20 bientôt, les gars. Je suis convaincu. Ah, oui. Top 20 d'ici l'Omnium, d'après moi, là, je suis un top autour du top 10, d'après moi, si ça peut continuer comme ça. Là.
Je pense que de façon générale, on s'enligne sur une meilleure année canadienne que celle de l'année passée. Même si
Faut pas dur à battre, Alex. Là.
Non, quoique Félix a sauvé, peut-être les choses en fin de saison, là, en allant au moins chercher un titre. Ça, c'est pas gagné d'aller gagner. Pas fait d'aller gagner un titre. Leila aussi aura aussi. Nico, Hugues, tu veux enchaîner?
Moi, je pense que Leila peut gagner des tournois. Elle l'a déjà fait, évidemment. Elle a battu, rappelons-le, la championne de Wimbledon en titre, Vandrousova, lors de la Billie Jean King Cup. Elle peut battre les meilleurs. Je pense que le classement de Leila devrait être naturellement là, entre la 20e et la 10e place mondiale. Mais je pense qu'elle peut nous surprendre avec des grosses victoires encore. Donc, oui, ça augure très bien pour son année, là, c'est clair.
Ben, elle a un titre à ses trois dernières saisons et un titre de championne de la Coupe du Monde. C'est quand même pas banal là, quand on regarde son palmarès de cette façon-là. Messieurs, il ne reste pas beaucoup de temps au premier bloc, mais ça fait pas mal le tour du côté des résultats canadiens. Quelques petits éléments que je veux qu'on regarde ensemble. Nico, qu'as-tu pensé... Attends, je vais commencer avec Hugues. Hugues, qu'as-tu pensé de cette poignée de main ou cette pas poignée de main entre Ostapenko et Azarenka qu'on a vu la semaine passée?
Ben, Ostapenko, qui est connu un peu pour ses frasques, avec Azarenka, c'est pas l'amour, c'est le moins qu'on puisse dire. Azarenka, en plus, a le numéro de Ostapenko. Ostapenko réussit pas à battre Azarenka et Ostapenko s'est présenté au filet, non pas avec sa main tendue, mais avec sa raquette tendue, ce que Azarenka a refusé. Donc, c'était un peu malaisant comme moment. Puis après, un match correct, somme toute, là, c'est dommage qu'elle ait pas voulu serrer la main.
Nico, commentaire ou encore une fois, rien de surprenant là?
Azarenka, elle est 5-0 contre Ostapenko. Ouais, je pense que ça résume le
tu penses
c'est pas une raison pour pas serrer la main quand même.
Non, c'est ça, non, exact. Mais connaissant un peu la bébite qu'est Ostapenko, lorsque ça fait 5 fois qu'un adversaire te malmène comme ça...
Mais tu entends qu'elle est mauvaise perdante, c'est ça que tu dis?
Ben là, je pense que c'est pas un secret pour personne. Là. Je pense qu'on l'a plusieurs reprises.
Intéressant.
C'est rarement de sa faute quand il perd, malheureusement. Pour ça.
Toutes les raisons sont bonnes. Le soleil, le vent, le
bruit, l'éclairage, le pH, le kilopascal.
Exact.
On va les kilopascal.
Tout y passe.
On va terminer avec une stats. Là, c'est vraiment une stats. Hugues aime ce genre de stats-là. C'est son genre de truc-là. Hugues, il n'y aura pas dans le top 10, pour une première fois, un bon petit bout, le joueur avec un revers à une seule main. Que penser de ça? Est-ce que le revers à une main est en disparition?
Ben, je voulais qu'on en parle un peu parce que c'est un sujet que les médias sportifs couvrent un peu en ce moment. Peut-être pas tant que ça au Québec, mais bon, le revers à une main, historiquement, était le revers généralisé. On sait que depuis la fin des années 70, le revers à deux mains a pris beaucoup de place, que les jeunes apprennent à jouer à deux mains, c'est très bien parce qu'on a plus de contrôle, plus de précision souvent à deux mains. Mais c'est la fin d'une époque, en tout cas temporairement, avec Tsitsipas et Grigor Dimitrov là, qui sont sortis du top 10 cette semaine. Peut-être qu'ils vont y revenir, hein, c'est pas un enjeu, mais il y a un signe des temps. Le revers maintenant de base, il est à deux mains, les jeunes apprennent à jouer à deux mains. Et même Roger Federer a dit, si c'était à refaire, je préférais avoir un revers à deux mains. Imaginez les gens qui aiment tellement son beau revers classique à une main qui était extrêmement performant, qui a fait évoluer justement au fil de sa carrière pour rester compétitif là autour de 2017-2018 quand il a recommencé à gagner des titres. Mais je trouvais qu'il fallait le souligner. Des joueurs comme Gasquet, Dominic Thiem, c'est une espèce en voie de disparition aujourd'hui.
Chapeau,
évidemment.
Revers est magnifique.
Donc, c'est très beau esthétiquement, ça peut être très bon, c'est très versatile, hein, aussi un revers à une main, c'est quand on veut passer en slice. Souvent, les gens qui ont des revers à une main auront des meilleurs volées aussi, je veux pas trop généraliser quand même, mais il faut le souligner, c'est une époque où c'est une race en voie de disparition en ce moment.
Intéressant, ouais, c'est pas le cas de Nico. Nico, lui, sa volée n'est pas meilleure.
Non, même si j'avais trois mains, je pense que...
Même si t'avais trois mains, t'aurais un revers à quatre mains.
Exactement.
Messieurs, on va faire une courte pause et au retour, Charlotte Robillard-Millette.
Venez prendre un verre au bar et restaurant Monem de l'Hôtel Montville. Parfait pour une fin de journée après le travail ou entre amis. De nombreux cocktails savoureux conçus pour la saison hivernale vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hôtelmontville.com. Profitez de 35% de réduction lors de la réservation de votre suite à l'Hôtel Montville grâce à l'offre Last Minute Escape. Il vous suffit de rentrer le code MKTFLASH lors de votre réservation sur hôtelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, les deux prochains blocs de l'émission se passeront avec la dame que vous voyez à côté de moi, Charlotte Rabier-Amelin. Charlotte, merci de venir faire un tour sur la ligne. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir, ça faisait longtemps qu'on t'avait invité. Comment vas-tu? Comment te portes-tu?
Bien, premièrement, merci à vous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je vais bien, je vais bien. C'est ma première apparition dans les médias depuis très longtemps. J'ai joué professionnellement pour ceux qui me connaissent. Puis ensuite, j'ai dû arrêter quand même assez tôt. J'ai décidé d'aller aux études, continuer mes études en communication ici à Montréal. Puis maintenant, je vais très bien. Puis je suis de retour dans la communication.
On va en parler un peu de ton parcours tennis. On va parler aussi de ton parcours à l'école également. Toi et moi, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Je me souviens d'avoir fait des entrevues avec toi alors que tu étais chez les juniors. Je vais le dire, une des meilleures juniors au monde à l'époque. Tu as certainement été un des plus beaux talents qui a passé dans le monde du tennis québécois dans les 20 dernières années. Et bravo pour ça, parce que ce que tu as fait chez les juniors, c'est quand même relativement exceptionnel. Mais tu le disais, tu as joué pro, mais tu frappes encore des balles, là. Est-ce qu'officiellement, tu es à la retraite? Est-ce que c'est clair dans ta tête?
Oui, on peut dire qu'officiellement, je suis à la retraite. J'ai 25 ans, donc c'est un peu tôt pour dire ça. Je pense que je commence une nouvelle carrière. Ma carrière de joueuse de tennis professionnelle est derrière moi. Malheureusement et heureusement, en fait, j'ai arrêté quand j'avais 19-20 ans, puis j'ai tenté un retour au jeu 2 ans plus tard. J'ai eu des problèmes de santé, donc j'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin d'aller mieux avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Ensuite, je suis revenue en 2020. En fait, j'ai recommencé à m'entraîner à l'été 2019 pour tenter de jouer un tournoi en mars 2020 en Tunisie. Puis une fois arrivé là-bas, on sait tous que c'était la pandémie. Puis ils ont annulé le deuxième tournoi. On a dû revenir à la maison en urgence. Les aéroports fermaient. Je devais trouver des vols pour mon entraîneur et pour moi. Donc, ça a été quand même assez difficile de ce côté-là. Je suis revenue à la maison. Les gyms ont fermé. C'était l'hiver. Je ne pouvais pas jouer dehors. Les centres de tennis aussi ont fermé. Donc, je me suis dirigée vers d'autres choses. J'ai commencé à coacher, parce que les sports-études étaient encore permis. J'ai commencé comme ça à aller frapper avec les jeunes, aller collaborer avec une académie. Puis après ça, j'ai fait ma certification en tant qu'entraîneur avec Tennis Canada. Puis ensuite, j'ai été aussi formatrice avec Tennis Canada en même temps de faire mes études. Donc, j'ai toujours été impliquée malgré tout dans le tennis. Puis, ça a toujours été une passion pour moi. Ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, je pense que veux pas, c'est encore présent dans ma vie. Puis, bien heureusement.
Voilà. Et si vous avez pas vu Charlotte jouer à l'époque, je veux dire que c'était une joueuse particulièrement divertissante. Une fille qui laissait personne indifférent sur le terrain avec quand même une bonne dose de caractère, autant quand les choses allaient bien que quand les choses allaient moins bien. Mais ça t'arrivait pas souvent que les choses allaient moins bien quand même.
Eh bien, je pense qu'au tennis, ça va jamais parfaitement. Je pense que il y a tellement de facteurs en jeu. C'est sûr que j'ai eu des très belles années. Si on pense à 2015, qui était mon année, ma meilleure année, j'ai joué le Grand Chelem d'Australie, j'ai fait une quart de finale là-bas. Ensuite, j'ai entamé une séquence incroyable sur terre battue en Europe, où est-ce que j'ai gagné un G2 pour ceux qui connaissent. Ça l'a changé un petit peu, mais chez les juniors, j'ai eu plusieurs tournois de suite, dont une finale contre Bianca Andreescu cet été-là, 2 fois de suite en fait, une à Repentigny à la maison, t'étais là aussi d'ailleurs. Mm-hmm. Ensuite, le US Open, Roland Garros, joué contre contre Badoza. Oui, j'ai eu vraiment une année incroyable. Puis cette année-là, j'ai une joueuse avec beaucoup de caractère. Je pense que c'est ça qui faisait mon charme, disons-le comme ça. Mais je pense qu'il faut ça. Il faut se battre. Il faut un peu d'émotion de mon côté. Ça m'aidait. J'étais plutôt calme, mais j'aimais ça aussi démontrer que j'étais présente, puis que des fois, ça allait bien, des fois, ça allait moins bien. Mais je travaillais là-dessus aussi, de garder mes émotions quand même assez calme entre les points.
Il faut pas que ça dérange. Il faut que ça reste positif. Et Hugues, juste avant d'aller à ta question, peut-être, je t'offre une opportunité parce que, c'est quand même ce que tu as réussi chez chez les juniors, mais dans ta carrière de tennis, il y a quand même peu de monde qui vont réussir à le faire. Il faut garder ça en perspective, même si ta carrière a été relativement courte, là, si on compare à des joueurs qui ont joué 20, 25 ans professionnellement. Mais peut-être, si tu avais à nommer quelques joueuses que tu as déjà affrontées, peut-être même que tu as déjà battues, là, peut-être des noms qui te viennent en tête.
OK, oui, c'est sûr que toutes les joueuses dans mon année, en fait, c'était Markéta Vondrousova. Donc, je l'ai joué dans une finale à Milan, dans le tournoi juste avant Roland-Garros. Dans le fond, cette année-là, dans tous les grands chelems, j'ai perdu contre la joueuse qui a gagné le tournoi. Donc, c'était un petit peu comme la blague, si tu gagnes contre Charlotte en grand chelem, ben tu vas gagner le tournoi. Donc, juste pour nommer des noms, j'ai perdu contre Badosa à Roland-Garros. Ensuite, j'ai joué Rybakina au US Open à New York. J'ai perdu contre Sofia Zouk à Wimbledon. Dans mon année, il y avait aussi Swiatek. Il y avait Bianca Andreescu, bien évidemment.
Tu as déjà battu aussi.
Que j'ai déjà battu aussi, justement, on s'était joué deux fois dans cette année-là.
Pour vous donner une idée, là, puis tu me diras si je me trompe, mais à l'époque, toi puis Bianca, vous étiez pas mal nez à nez, là. C'était pas mal, c'était pas quelqu'un qui pouvait prédire vraiment qui allait gagner à chaque fois que vous alliez jouer.
Je pense qu'il y a eu un moment où est-ce que j'étais un petit peu en avance, d'autres moments où est-ce qu'elle était un petit peu en avance, mais comme tu dis, on était vraiment nez à nez, surtout autour des années 2015-2016, puis on jouait en double aussi souvent ensemble, on a fait la Fed Cup, qui est maintenant la Billie Jean King Cup, puis Bianca et moi, on est des meilleurs amis, on est depuis toujours, depuis le premier tournoi qu'on a fait ensemble en 2015, qu'on avait voyagé sur cette tournée-là, on s'est rapprochés, puis on a une amitié qui est très, très unique, très spécial, même encore à ce jour. Je l'ai vu tout récemment. On essaie de prendre du temps pour se voir, puis c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour nous, là.
Ben, ça me surprend pas que tu dises que vous avez une belle amitié parce que bah t'es bien sympathique et Bianca, je me souviens de mon temps des entrevues chez les juniors, elle était toujours super fine là, d'avoir fait des entrevues avec elle, puis des fois elle restait jaser avec nous 10, 15, 20 minutes après pour parler de tennis et parler de ses amis du tennis également. Hugues, je te laisse enchaîner une question pour notre ami Charlotte.
Ouais, Charlotte, t'as été quand même quatrième mondial chez les juniors, il faut le dire, c'est exceptionnel, bravo encore, je te le dis. Parle-nous un peu de la différence entre réussir chez les juniors et réussir chez les pros après. On sait qu'il y a une étape à passer, tant du côté féminin que masculin. Il y a des histoires, il y a des juniors qui ont bien performé, qui n'ont pas réussi à percer chez les pros. Et dis-nous un peu comment ça se passe, en fait, quand on passe sur le circuit professionnel.
Oui, ben c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Quand tu joues chez les juniors, tu sais, t'as 14, 15, 16 ans, c'est pas mal on est pas mal toutes des amis, on se connaît, on fait les mêmes tournois, on voyage ensemble. Donc tous ceux qui sont dans le top 50 ITF se connaissent bien, se jouent régulièrement, tu sais, on reste dans les mêmes hôtels, des fois on va souper tout le monde ensemble le soir. Tu sais, c'est vraiment plus comme amical, sociable. C'est sûr qu'on arrive sur le terrain, c'est une autre chose, mais je veux dire, à l'extérieur, puis même quand on joue en double, des choses comme ça, c'est cette atmosphère-là qui est agréable quand même. On se comprend tous, on a tous le même, tu sais, un peu la même réalité de pas aller à l'école. Tu sais, on est quand même des jeunes adolescents.
En tout cas, pas aller à l'école de façon conventionnelle, disons-le comme ça.
Disons-le comme ça, je dis toujours comme ça, mais dans le fond, c'est de faire l'école à distance, donc de pas aller physiquement à l'école, avoir un groupe d'amis, puis donc c'est un peu tout ça. Quand tu arrives chez les pros, donc je pense que ça, c'est un aspect, c'est que c'est toutes des adultes. C'est toute leur carrière, c'est leur travail. Donc elles sont là pour c'est ça, c'est leur business comme tu dis, c'est je suis là pour faire de l'argent, je suis là pour réussir, puis j'ai mon équipe, puis tu fais pas partie de mon équipe, puis tu t'es pas nécessairement un ajout que j'ai besoin. Donc voyage avec une de mes amies ou je voyage avec mon copain, mon coach, mon physio, mon ci, mon ça ou même pas, mais c'est un peu plus chacune pour soi, chacun pour soi, surtout chez les femmes. Puis c'est correct, je pense que tout le monde est dans sa bulle, tout le monde veut être sûr que tous les petits détails soient bien. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti. J'ai eu des super belles relations, des super belles amitiés chez les pros aussi, mais je trouve que l'atmosphère puis la mentalité est un petit peu différente. T'arrives, tu connais moins de gens aussi parce que c'est toutes des personnes un peu plus âgé que tu vois pour la première fois. Donc, t'es un peu comme débalancé de ce côté-là, je trouve. Tu vois quelques personnes des juniors, mais c'est pas tout à fait la même chose. Aussi, il y en a qui décident d'aller pro, il y en a qui décident d'aller à l'université. Donc, c'est un moment un petit peu important dans la carrière de décider quel parcours tu veux faire, prioriser soit tes études ou d'aller sur le tour. Donc ça, ça a été un choix que j'ai dû faire qui était pas facile. Donc je pense que des fois, peut-être au début, il y a des questions, il y a des doutes. Donc des fois, il y en a qui ont des super bonnes années jeunes, donc c'est automatiquement plus facile. Je pense que physiquement, il y en a qui sont pas 100% développés encore. Donc je pense qu'il y a plein de facteurs. Il faut aussi beaucoup de chance. Tu sais, je veux dire, tu peux pas prédire à 100% que quelqu'un va se ramasser exactement où. Faut que t'ailles aucune blessure, ben peu de blessures. Mm-hmm. Il faut que tu te sentes bien dans ta vie personnelle. Tu sais, plein de choses qui peuvent se passer. On n'est pas des robots. Tu sais, je veux dire, il y a plein de facteurs, mais je pense que ça, ça en est quelques-uns. Si je peux t'en nommer, puis aussi tout ce qui est classement. Tu sais, quand t'arrives chez les pros, t'as pas de classement. Faut utiliser probablement des laissez-passer dans des gros tournois. Donc, peut-être que t'en as, peut-être que t'en as pas. Peut-être que t'arrives puis t'as un bon premier tour, ça te permet d'avancer un petit peu plus rapidement. Donc, c'est un peu tout ça, là, je crois. Puis aussi, je pense faut pas laisser de côté le financement aussi. Là, quand t'arrives chez les pros, c'est toi qui dois payer, c'est toi qui dois, c'est ta carrière. C'est ton revenu. Donc, ça aussi, c'est un gros aspect que les gens peut-être ne connaissent pas, mais c'est très, très dispendieux de voyager et d'avoir une carrière chez les pros, tandis que chez les juniors, des fois, tu as la fédération, tu as des aides qui sont quelconques. Quand tu arrives chez les pros, tu es un petit peu laissé à toi-même.
On va revenir sur certaines de tes décisions après la pause, si tu veux, Charlotte, parce que tu disais c'est un moment charnière au moment où tu décides de passer pro, peut-être aller jouer dans un collège américain, on pourrait y revenir. Aussi, tu as joué un tournoi qui à l'époque s'appelait la Coupe Rogers, qui est aujourd'hui l'Omnium Banque Nationale. On va revenir là-dessus après la pause.
Venez prendre un verre au bar et restaurant Monem de l'Hôtel Montville. Parfait pour une fin de journée après le travail ou entre amis. De nombreux cocktails savoureux conçus pour la saison hivernale vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hotelmontville.com. Profitez de 35% de réduction lors de la réservation de votre suite à l'Hôtel Montville grâce à l'offre Last Minute Escape. Il vous suffit de rentrer le code MKTFLASH lors de votre réservation sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, l'émission officielle de l'Omnium Banque Nationale, version télévisuelle à TVA Sports. Je rappelle qu'on a également une version audio que vous pouvez trouver sur toutes les bonnes plateformes de balado, mais particulièrement sur les plateformes digitales de Cogeco. Et c'est un épisode d'environ une heure là, qu'on fait chaque semaine où on parle de l'actualité du tennis. On reçoit également des invités. C'est ce qu'on fait également à la télé. Et parlant d'invités, ben, on en a une à côté de nous, Charlotte Rébière-Millette, ancienne top 4 mondiale chez les juniors, qui a joué également chez les professionnels. Hugues, je te laisse enchaîner. On a parlé un peu de son parcours, mais bon, quand on arrive chez, tout près de jouer professionnel, là, quand on a 16, 17, 18, 19 ans, on a des décisions importantes à prendre.
Ben, Charlotte, de plus en plus de joueurs et joueuses, tu le sais, doivent faire le choix d'aller jouer côté université américaine, NCAA, ou commencer professionnel. Un Félix allait directement sur le circuit. Des gars comme Gabriel Diallo, Alexis Galarno, Draxel sont passés par les collèges américains. Parle-nous un peu du débat que vous avez quand il faut faire ce choix-là. Et qu'est-ce qui motive votre choix ultimement? Puis on voit que ce parcours-là semble fonctionner pour des joueurs qui vont arriver sur le circuit peut-être un petit peu plus tard, à 22, 23 ans, mais décident d'aller faire un diplôme avant quand même.
Oui, exact. Il arrive un moment dans la carrière, autour de 17 ans, quand tu finis, pour nous ici, notre secondaire 5, mais le grade 12, là, pour de décider si tu veux aller essentiellement pro à temps plein ou aller à l'université, parce qu'à ce moment-là, si tu as des bons résultats, si tu joues sur la scène internationale, il y a des universités qui vont t'approcher. En fait, tu vas avoir des échanges, des discussions avec certaines universités, voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté. Donc, autour de 17 ans, je regardais pour aller à l'université américaine en NCAA Division 1. Puis, avec les résultats que j'avais eus, j'étais confiante que c'était le moment d'aller pro tout de suite. Puis je pense que ça fait pas si longtemps que ça non plus, là, mais il y a quelques années, c'était moins répandu que les joueurs et les joueuses allaient à l'université avant. Parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans une université pour un an ou deux, jouer là-bas, puis ensuite mettre sur pause.
Un peu comme Ben Shelton l'a fait. Là.
Exactement, puis retourner jouer, puis en fin de carrière, par la suite, revenir à l'université pour terminer nos études. Donc ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup d'athlètes font, que moi, dans mon temps, c'était moins recommandé. Les conversations étaient plus que c'était une perte de temps.
Mais il faut dire que la plupart des top juniors, de façon générale, vont passer pro directement. Je veux dire, et toi, tu étais dans cette position-là, je veux dire, t'étais quatrième mondial junior. La plupart des pros, des top juniors vont passer pro directement.
Exactement. Pour moi, l'éducation était toujours importante. Pour ma famille aussi, c'était toujours clair que peu importe la carrière que j'avais, très bonne ou peu importe, j'allais retourner. Donc, ça a quand même été une option à ce moment-là. Je regardais des universités comme Stanford. Puis, j'ai décidé d'aller, comme tu dis, j'avais un très bon momentum. J'ai décidé d'y aller de l'avant. J'avais déjà des commanditaires aussi. J'étais avec ASICS, j'étais avec Wilson. Donc, j'avais une agence aussi. J'étais avec IMG, le même agent que Maria Sharapova dans le temps. Puis, ce que je me faisais dire, c'est « vas-y, tu joues super bien ». C'est un peu, comme tu dis, ce que toutes les meilleures juniors mondiales font. Donc, c'est dans cette direction-là que je suis allée. Une fois que j'ai signé avec l'agence et que j'ai accepté les rémunérations, il n'y a plus de retour en arrière pour ensuite retourner à l'université selon les règles de la NCAA. Donc, malheureusement, quand j'ai arrêté un ou deux ans après et j'aurais peut-être aimé retourner, je me suis informée et c'était pas possible. Donc, je pense que ça aurait été une bonne avenue aussi, mais je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, c'est mon parcours, il est unique, c'est comme ça, mais il y a quand même les deux avenues quand tu arrives à un certain niveau puis à un certain âge, soit d'aller à l'université, soit d'aller temps plein sur le tour.
Mais avec du recul, est-ce que tu te dis, ben peut-être que j'aurais dû aller jouer du côté des collèges américains, faire un 3-4 ans là, puis me donner la possibilité de sortir si je vois que mes résultats sont, entre guillemets, exceptionnels, tu sais. Est-ce qu'avec du recul, tu te dis, peut-être que j'aurais dû aller prendre peut-être la maturité physique à l'université, dans les universités américaines?
Ouais, ben c'est ça qu'il y en a beaucoup qui disent que faut que tu matures un petit peu plus avant d'arriver sur le tour, parce qu'il y en a qui ont 25, 26, 27, 28 ans. Tu vas prendre un peu d'expérience aussi, voir quelque chose d'autre. Je veux pas dire que je regrette, parce que j'aime pas vivre avec des regrets. Je pense que si j'ai pris cette décision-là à ce moment-là, c'est que c'était la bonne pour moi, puis que je devais prendre celle-là. Puis je pense que j'aurais aussi regretté de l'autre côté si j'étais allée à l'université puis que j'avais manqué quelques années sur le tour. Ayant un aussi bon niveau à ce moment-là, je me serais peut-être sentie comme j'étais en train de perdre mon moment, d'avoir des super résultats. Puis je pense que de prime abord, c'était mon rêve. Mes ambitions, c'était d'avoir une carrière de tennis. Donc, je pense que j'étais 100% dans cette direction-là. Puis, je le regrette pas. C'est sûr que si j'avais su tous les éléments, que j'allais avoir des problèmes de santé, que j'allais dû devoir arrêter, probablement que j'aurais décidé d'aller à l'université.
Prioriser. Dans un encadrement où t'es pas tout seul par toi-même. Là.
Exactement. Prioriser d'autres choses, avoir un encadrement, continuer de jouer, d'être dans une équipe, puis d'avoir ce support-là, tout en gardant mon niveau de jeu, puis peut-être qu'il aurait été le bon moment par la suite de continuer ma carrière, mais j'avais pas toutes ces informations-là, évidemment. Puis, c'est quelque chose qui arrive, mais j'ai fait d'autres choses quand même. J'aurais pas fait ma formation en tant que coach si j'étais probablement allée à l'université. J'aurais pas fait de la formation. J'aurais pas rencontré probablement des personnes que j'ai rencontré ici à Montréal. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que, oui, ça aurait été une belle expérience. J'ai plein de mes amis de tennis, là, anciens joueurs, qui sont allés à l'université puis qui ont adoré, qui ont eu une super expérience, qui ont rencontré des gens incroyables puis qui ont quand même gardé un bon niveau. Puis, il y en a aussi qui sont revenus sur le circuit puis qui ont des super résultats. Donc, il n'y a pas de parcours idéal, il n'y a pas de boule de cristal, mais je pense que je suis quand même fière de où est-ce que j'en suis maintenant.
Ouais, mais il y a plein de beaux exemples sur le circuit qui sortent des collèges américains. Tu sais, John Isner en était un. Bon, quand on remonte plus loin, John McEnroe, peut-être, ouais, voilà. Et plus récemment, tu as une fille comme Danielle Collins qui a passé par les collèges américains. Bon, Ben Shelton, on en dit, c'est un autre bel exemple. Mais bon, j'aime la façon dont t'en parles parce que t'as quand même pas de regrets par rapport à ce que t'as fait. Et puis, je pense que avec bon les informations que tu avais à ce moment-là, la plupart des athlètes auraient pris la même décision que toi. Bon, tu parles de bons souvenirs. tu as réussi quelque chose. Et là, le but, c'est pas juste de flatter ton ego, mais quand même, on va le faire parce que tu as quand même réussi. Tu as quand même réussi des choses exceptionnelles. Tu as joué un tournoi, vous connaissez peut-être sous le nom d'Omnium Banque Nationale aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait la Coupe Rogers. Tu l'as joué à quelques reprises. C'est comment de jouer la Coupe Rogers ou l'Omnium Banque Nationale?
Écoute, effectivement, c'est probablement un de mes meilleurs souvenirs dans ma carrière de tennis. Je l'ai joué à la maison pour la première fois, donc je pense que c'est un sentiment assez spécial. Beaucoup de stress, mais d'avoir ta famille, tes amis, ton monde, comme on dit, dans les estrades, dans un match aussi important, dans un gros tournoi comme ça. J'ai joué sur le central aussi. Je me rappelle comme si c'était hier, je l'ai dit à mes parents en sortant du terrain, mais j'ai jamais eu des frissons en jouant au tennis. Puis dans ce match-là, j'ai eu des frissons parce que juste la foule, l'énergie, me sentir supportée à la maison, on dirait que c'était comme un, comme ils disent en anglais, un full circle, où est-ce que je me suis entraînée ici à Montréal toute ma vie, j'ai travaillé fort au Centre national, c'est mes terrains, c'est chez moi, ma famille m'a supportée, c'est mon rêve de le jouer, je suis venue quand j'étais jeune avec ma grosse balle de tennis pour avoir des signatures, tu sais, vraiment un beau moment, puis je pense que ça va rester gravé dans ma mémoire à tout jamais par rapport à ma carrière de tennis. Aussi d'autres moments comme jouer la Fed Cup, puis d'autres moments aussi qui sont vraiment importants pour moi, là, qui représentent le Canada, puis de où est-ce que je suis partie. Là.
Ben, c'est une infime partie des joueurs de tennis qui vont avoir la chance de jouer un tournoi comme l'Omnium Banque Nationale, qui est qui a toujours été un tournoi d'hyper haut niveau. Fait que c'est pas banal, tu vas pouvoir toujours cocher ça, puis si un jour tu as des enfants, tu vas pouvoir peut-être leur dire que maman aura joué un des plus gros tournois au monde, puis ben ils comprendront peut-être pas à un jeune âge, mais éventuellement ils vont comprendre l'ampleur de ce que tu auras réussi à faire, parce que c'est quand même pas banal. Hugues, il y a toutes sortes de sujets qui parsèment l'actualité tennis. Il y en a un dont on a parlé dans les dernières semaines, c'est celui des peut-être finale à WTA présentée en Arabie Saoudite, et peut-être que tu veux voir avec Charlotte. Bon, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça?
Ouais, ben on sait que bon, c'est un sujet d'actualité en ce moment, ce qui se passe du côté Arabie Saoudite. Raphaël Nadal qui devient ambassadeur pour l'Arabie Saoudite avec un très gros contrat. Apparemment, c'est 100 millions qu'ils lui ont donné pour être ambassadeur. Les deux circuits sont en discussion. La WTA, on le sait, a connu des moments plus compliqués au niveau financier depuis 2-3 ans. Les finales de la WTA, justement, ont été un peu des fiascos les deux dernières années, là, au niveau installation. Les joueuses n'étaient pas très contentes. Parle-nous un peu de comment tu vois cet engagement potentiel-là qui se prépare avec l'Arabie Saoudite.
Oui, ben, je pense que c'est une question importante. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux autour de tout ça. Écoute, il y a le côté financier, effectivement, que la WTA a des enjeux de ce côté-là. Puis, je pense que c'est correct qu'il regarde l'alternative. D'un autre côté, je veux dire, en Arabie Saoudite, on est tous conscients des enjeux là-bas, des conditions de vie, la place des femmes, le racisme.
Les droits humains
sont bafoués, puis faut pas se le cacher. Donc la WTA parle de diversité, d'inclusion, puis tu sais, fait valoir ces valeurs-là. De l'autre côté de la bouche, il faut pas sentir non plus que on a un beau chèque sur la table, on oublie tout ça, puis on le prend. Il y a des conditions qui doivent être respectées, je pense, surtout pour les joueuses, comme tu sais, je nomme une joueuse comme ça, Kazatkina, qui a confirmé son homosexualité il y a pas très longtemps. Peut-être que ça se sentirait pas bien d'aller jouer dans des conditions comme ça, où est-ce que tu peux même pas te promener avec un objet ou un accessoire d'arc-en-ciel. Il y a quand même des enjeux de ce côté-là.
Ce serait dommage, mettons, pour une athlète qui a travaillé toute l'année pour se rendre au final, de dire, ben, j'y vais pas pour des motifs
humains. Je me sens pas confortable d'y aller, puis je sens que mes droits sont bafoués, puis je sens que les priorités sont pas à la bonne place. Donc, j'ai lu un commentaire de Coco Gauff que je trouve intéressant, où est-ce qu'elle disait, je suis consciente de ce qui se passe en Arabie Saoudite, je trouve pas ça acceptable, je suis pas d'accord, mais si on y va, je pense qu'il faudrait que ça soit sous un prétexte où est-ce qu'on va aller dans les communautés, on va aller s'impliquer, on va aller collaborer avec eux, vraiment faire un impact, d'y avoir un changement concret, montrer que on met pas ça en dessous du tapis, on est conscient, on comprend, on a des enjeux financiers qui eux peuvent nous aider, mais donc je pense que plusieurs choses sur la table par rapport à ça, c'est d'être prudent, de pas aller trop vite puis de pas sentir qu'il y a une considération de tout ça. Je pense que pour les joueuses aussi c'est important, malgré que oui, comme les finales WTA avaient pas été à la hauteur, je pense qu'il y a d'autres options aussi. C'est un peu où est-ce que j'en suis dans ma position par rapport à ça. C'est sûr que je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que le tennis. C'est incroyable, c'est un beau sport, ça divertit, ça demande des qualités incroyables des joueuses, mais je pense qu'il y a des choses comme les droits humains, puis le respect, puis des enjeux beaucoup plus importants qu'on doit prendre en considération.
C'est drôle parce qu'on a parlé à Rebecca Marino il y a à peu près 2 semaines de cet enjeu-là, et ta réponse ressemble étrangement. Tu dis, bon, ben effectivement, il y a un enjeu financier à regarder. Faut pas perdre de vue aussi que, bon, les droits humains, c'est aussi un enjeu qu'on doit garder à l'œil, mais c'est peut-être une opportunité de changer les choses de l'intérieur. Si on le fait de la bonne façon, ben ça peut être peut-être comme...
Effectivement. C'est ça qu'on veut aussi pour le sport, c'est de montrer une visibilité au changement, aux valeurs, à qu'est-ce qu'on veut divulguer dans le monde. Donc, ça peut l'être, faut juste que ça soit bien fait et non maladroiteusement pour des raisons un peu économiques, là.
Non, mais non, effectivement, ça peut être fait. Le terme que tu as utilisé, le bon, je pense, d'être un vecteur de changement. Charlotte, merci infiniment de ta présence à Sur la ligne. Je sais que tu étudies en communication à l'Université de Montréal. Je pense que ça va bien aller tes affaires en communication. tu te débrouilles particulièrement bien. Et je te lance l'invitation, tu reviens nous voir quand tu veux, ma chère Charlotte. Si t'as aimé.
J'ai adoré. Merci à vous.
Ouais. Merci une fois de plus à Charlotte Robillard-Millette. Elle a été vraiment sympathique et c'est vraiment cool de l'avoir avec nous, autant pour la version audio que pour la version télé. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et particulièrement sur les plateformes digitales de Cogeco en vertu de notre entente avec Cogeco dont on est bien fiers et qu'on parle chaque semaine. Et vous pouvez nous voir à TVA Sport, TVA Sport 2 également. Les gens nous écrivent pour nous dire qu'ils nous ont vus. Ben, ça nous fait toujours plaisir. Vous n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. On est toujours bien content de jaser et de savoir votre opinion. Et bien, sur ce, c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Et Nicolas Richard, comme c'est la tradition, je vais te demander de terminer l'épisode.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.